Maintenant, où devons-nous aller pour nous informer sur le sujet de l'éducation des enfants? Cette question peut paraître simple, mais l'est-elle? Car il n'y a pas toujours de consensus sur le sujet. Commençons donc par le commencement, dans le livre de la Genèse, le chapitre 2. Commençons par voir un problème que l'humanité avait dès le début. Oui, nous allons parler des deux arbres. Regardons le verset 15, Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Il lui a donné beaucoup d'arbres pour qu'il puisse manger librement. Et bien sûr, lorsque nous regardons autour de nous, dans notre monde moderne, nous avons toutes sortes de fruits qui sont à notre disposition grâce aux moyens de transport modernes. Il y a des fruits qui existent dans d'autres parties du monde que nous ne connaissons pas. Il y a d'autres fruits dont nous ne savons rien. Le jacquier est une plante dont j'ignorais tout jusqu'à ce que j'aille en Inde. Il y a cette grosse et vilaine pousse sur le côté des arbres. Pas sur les branches, mais près du tronc. Il la coupe, et il y a un fruit à l'intérieur. Cela ressemble à une pêche ou quelque chose comme cela. Pas une pêche entière, mais une tranche de pêche. Un goût très différent. Je suppose que la plupart des personnes présentes dans cette salle ne l'ont jamais goûté. Je n'en ai jamais vu dans les supermarchés de cette partie du monde. On en trouve peut-être dans certains magasins spécialisés, mais je n'en ai jamais vu. Et bien sûr, il y a les noix de cajou. Mais combien ont déjà goûté le fruit de la noix de cajou? Car pour chaque fruit, il n'y a qu'une noix de cajou. Le fruit est très sucré, très savoureux, mais il est souvent transformé en vin ou en liqueur. Mais j'imagine que tous ces fruits étaient présents dans le jardin d'Éden. Dieu devait certainement en avoir produit beaucoup. Poursuivons verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Je tiens à préciser qu'il s'agissait de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Et c'est ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui, nous voyons le bien et le mal. C'est un peu comme les gens. Très peu de gens sont entièrement mauvais, et personne n'est entièrement bon. Mais même les personnes malveillantes ont parfois de bonnes qualités, d'une manière ou d'une autre. Nous ne les reconnaissons pas toujours. Nous avons tendance à diaboliser les dictateurs et autres. Peut-être ne sont-ils pas aussi mauvais que nous le pensons. Ils ont leurs problèmes, mais, comme on le dit, la première victime de la guerre est la vérité. C'est ainsi que l'on diabolise l'opposition. C'est vrai pour la politique, c'est vrai pour beaucoup de choses dans la vie, où l'on diabolise quelqu'un. Et pourtant, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout n'est pas mauvais dans la vie. Il y a de bonnes choses que nous pouvons apprendre d'une multitude de sources. La Bible est très claire à ce sujet. La sagesse nous entoure, comme le dit le livre des Proverbes. Ce ne sont pas les mots exacts, mais c'est à peu près l'idée. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal indique qu'il y a des choses qui se mélangent. Lorsque nous adhérons à une doctrine ou à une idée, nous pouvons très bien manger ou boire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certaines choses sont bonnes, mais d'autres laissent à désirer. Et par la suite, l'humanité a toujours mangé du mauvais arbre. Nous arrivons à un moment où Dieu nous appelle à ce que nous appelons le baptême. Nous pouvons lire cela dans Romains 6. Ce chapitre est sans doute lu et expliqué à chaque personne avant son baptême. Dans Romains 6, il est question du baptême, et au verset 3, il nous est dit, Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? » Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été immergés dans un réservoir d'eau ou un ruisseau ou une rivière ou même une piscine, et cela représente la mort de notre vieux moi. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, le vieux moi, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, ou plus serviteurs du péché. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Comme le docteur Meredith avait l'habitude de citer Galates 2:20, c'est très profond quand on y réfléchit. Nous devons le considérer d'une manière très personnelle. En lisant Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Moi, mon vieil homme, ma façon de penser, ma façon de faire les choses. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, plus exactement la foi du Fils de Dieu. En d'autres termes, la foi de Dieu en moi, pas seulement ma foi, mais la foi de Dieu. Verset 20, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Mais nous voyons que nous devons être crucifiés avec le Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Nous voyons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, et je commencerai au verset 7. Nous pourrions commencer plus tôt, mais pour gagner du temps, débutons au verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Lorsque j'ai été conseillé pour le baptême, on m'a dit que je ne devais pas seulement me repentir des choses que j'avais faites, mais aussi de ce que j'étais. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment tout compris à l'époque. J'ai dû le comprendre dans une certaine mesure, mais c'était il y a longtemps, et il m'est difficile de me souvenir de toutes mes pensées. Je ne me souviens que de certaines pensées de cette époque. Se repentir des actions passées ne suffit pas. Il est nécessaire de se repentir de notre façon de penser. Comme il est dit que le méchant abandonne sa voie, les choses que nous faisons, les actions que nous avons eues, et l'homme d'iniquité ses pensées. La façon dont nous pensons, la façon dont nous raisonnons. Lorsque nous avons été baptisés, avons-nous compris que nous devions non seulement nous repentir de ce que nous avions fait, mais aussi de notre façon de penser en tant qu'être humain? Nous devons réaliser que notre nature humaine est telle que nous devons nous en repentir. Remarquez-le dans Romains 8. Je pourrais continuer à dire que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et ainsi de suite, et que ses voies sont plus élevées que les nôtres, mais allons à Romains 8. Vous pourrez lire les versets 8 et 9 dans Ésaïe 55. Mais reportons-nous à Romains 8, verset 7. C'est un verset que beaucoup mémorisent. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair, c'est-à-dire un esprit physique, charnel, séparé de l'esprit de Dieu, est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'esprit physique séparé de l'esprit de Dieu est en désaccord avec Dieu. Il pense qu'il sait mieux que Dieu. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais lequel d'entre nous a l'esprit du Christ parfaitement en lui? Pleinement en lui. Au point de ne pas avoir à lutter contre les mauvaises attitudes et les mauvaises pensées et les mauvaises façons de voir les choses. Dans 1 Corinthiens 3, et le verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il s'adressait aux habitants de la ville de Corinthe. Il ne s'adressait pas au grand public, mais à l'Église de Dieu à Corinthe, comme nous l'apprenons au début de 1 Corinthiens. Continuons au verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Parfois dans la vie, qu'il s'agisse de l'éducation des enfants ou de toute autre partie de notre vie, lorsque nous constatons que nous nous disputons avec les autres, qu'il y a des conflits. C'est donc qu'il y a un problème à résoudre. Je me souviens, et j'ai déjà mentionné cet exemple auparavant, c'est un peu une note secondaire, mais je me souviens de deux hommes qui étaient en désaccord l'un avec l'autre. Je pense qu'ils avaient des raisons sincères de l'être, mais j'étais leur supérieur à l'époque. Et j'ai dit à l'un d'eux, « Écoutez, pourquoi ne pas inviter cette personne à prendre une tasse de café? Pourquoi ne pas vous asseoir, prendre une tasse de café ou une bière et en parler? » Et il m'a répondu, « Pourquoi le ferais-je? Il n'est pas converti. » Je ne savais pas que les Écritures interdisaient de parler à un inconverti. Mais ensuite, j'ai parlé à l'autre. Il a eu exactement la même réponse. Il n'est pas converti. Je ne sais pas si ces hommes n'ont jamais résolu ce problème. En fait, j'ai vécu deux situations, toutes les deux avec des hommes, où la même formulation était utilisée. Ce qui nous amène à nous demander d'où venait cette idée. Sans aucun rapport entre eux, même pas dans la même région, mais l'idée que je ne peux pas parler à quelqu'un parce qu'il n'est pas converti. Vous savez, il parle ici d'être charnel. Il dit, « Je vous ai nourri du lait de la parole, et non d'aliments solides. » C'est pourquoi les gens pensent souvent que la nourriture solide est la prophétie. Mais M. Barovitch a fait un sermon sur ce sujet, je ne me souviens plus du titre. Mais je crois que c'était « Le lait et la nourriture solide de la parole » ou quelque chose comme ça. Beaucoup de gens se font une fausse idée de ce que c'est. Puis au verset 4, quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Il y avait donc des gens au sein de l'Église de Dieu à Corinthe qui avaient un problème. Ils n'avaient pas été complètement ensevelis avec le Christ, pour parler franchement. Ils s'accrochaient encore à leur nature. Dans 2 Corinthiens 10, il nous est dit contre quoi nous devons lutter. Il s'agit d'un passage de l'Écriture que nous avions l'habitude de lire plus souvent. Je l'ai entendu plusieurs fois ici récemment, mais il est dit au verset 3, 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ou physiques. Il ne s'agit pas de fusils, ni de roquettes, ni de grenades, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons nous en souvenir tout au long de ce sermon. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Lorsque nous sommes en désaccord avec Dieu, cela sous-entend que nous avons une certaine prétention de nous-mêmes. Par exemple, j'ai entendu des gens dire, « Eh bien, vous savez, Paul n'était qu'un homme qui détestait les femmes. Je ne suis pas d'accord avec Paul. Croyez-vous la Bible? Oui, mais pas avec Paul. » Ou quelque chose de ce genre. « Je suis d'accord avec la plupart des choses, mais il y a un domaine de la vie avec lequel je ne suis pas d'accord. » Et ne sommes-nous pas en train de nous élever au-dessus de Dieu? Dieu a-t-il inspiré ce livre ou non? S'il l'a fait, nous devons le respecter. Nous devons en tirer des enseignements. S'il ne l'a pas fait, pourquoi serions-nous ici? Ou si nous pouvons simplement choisir ce que nous voulons dans la Bible, alors pourquoi croire en quoi que ce soit? Qui est donc l'autorité en la matière? certaines écritures fondamentales étaient plus souvent lues par le passé. Il est facile de supposer que tout le monde les connaît. Et j'ai appris, un peu à la dure, quand l'apostasie est arrivée dans l'Église universelle, qu'il y avait des choses que je n'avais pas enseignées parce que je pensais que tout le monde les connaissait. Il est dit ici dans Proverbe 14, verset 12, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Cela semble juste pour un être humain. Mais cela se termine par la mort. C'est pourquoi Dieu répète cela dans Proverbe 16, verset 25, pour insister sur ce point. Ce qui semble droit à nos yeux ne l'est pas toujours, et son issue peut conduire à la mort. Non seulement il le peut, mais il le fait. Jérémie 17, verset 9, nous parle de notre cœur. J'ai parfois entendu des gens dire « Dieu parle à mon cœur », et d'autres fois ils disent « Dieu connaît mon cœur ». C'est pourquoi quelques-uns n'observent pas le sabbat ou les jours saints ou quoi que ce soit d'autre, car Dieu connaît mon cœur. Et je réponds, oui, il le connaît. La question est, connaissez-vous votre cœur? Dieu le connaît, mais vous, le connaissez-vous? Si je vous donne ce préambule, c'est pour insister sur le fait que nous devons nous tourner vers la parole de Dieu pour savoir comment élever des enfants. Il existe de nombreux livres merveilleux. Il existe de nombreux programmes merveilleux. Il y a beaucoup d'orateurs éloquents qui ont de très bonnes idées. Mais souvent, c'est un mélange de bien et de mal. Bien qu'ils vous conduisent sur un chemin qui peut sembler bon, ils vous éloignent de quelque chose que Dieu a clairement exprimé dans sa parole. Et je ne suis pas ici pour dire que nous ne pouvons pas apprendre des principes divins à partir de d'autres sources ou de bons livres. Mais nous devons être prudents. Nous devons comparer ce qu'ils disent avec la parole de Dieu. Car le fondement de notre compréhension de ce sujet ou de tout autre sujet doit être la Bible, la parole de Dieu. J'espère que vous lisez tous, en particulier les parents, la brochure du docteur Jeffrey Fall, intitulé « Principes éternels pour l'éducation des enfants ». Si j'ai bien compris, le docteur Meredith a demandé à M. Fall, ou Dr. Fall, d'écrire cette brochure parce qu'il y avait un résultat positif avec ses actions parentales. Le docteur Meredith a compris que si l'on demande à quelqu'un d'écrire un livre sur ce sujet, il faut trouver quelqu'un qui a réussi dans ce domaine. Il a donc rédigé cette brochure, qu'il est bon de relire. Si vous ne l'avez jamais lue, lisez-la. Si vous l'avez déjà lue, relisez-la de temps en temps, surtout si vous êtes parent. Mon père m'a raconté un fait qui se déroula lorsqu'il était sergent-chef dans l'armée de l'air. Et il devait s'occuper de 500 hommes dans l'escadron. Il était responsable de leur bien-être, de leur morale. Il devait s'assurer qu'ils avaient un logement convenable, et je suppose qu'il pouvait même donner des conseils sur le mariage et d'autres choses de ce genre lorsqu'il y avait des problèmes. Et à bien des égards, son travail ressemblait à celui d'un ministre. Et il me disait souvent, « Si tu t'occupes des petites choses, tu n'auras pas à te préoccuper des grandes. » Occupe-toi des petites choses et tu n'auras pas à te préoccuper des grandes. Vous l'avez sans doute entendu sous d'autres formes, par exemple, arrêter le problème avant qu'il ne commence. Nous avons sans doute tous entendu cela, ou encore, étouffer le problème dans l'œuf. C'est comme un bourgeon sur un buisson ou un arbre. Cassez-le, et vous n'aurez plus à vous préoccuper des fruits ou des feuilles, quels qu'ils soient. Enrayez l'émergence. Arrêtez-le quand il est petit. Et combien de femmes ont utilisé le dicton « un point à temps en vaut 100 ». J'ai remarqué qu'il y a un petit trou dans ma poche et je dois demander à ma femme de le coudre. Elle ne savait pas qu'il était là, je l'ai découvert en mettant ma main dans ma poche. Mais un point à temps en vaut 100. Si vous vous en occupez quand c'est petit, vous n'aurez pas une grosse déchirure impossible à réparer. Le docteur Kermit Nelson dirigeait le programme d'éducation d'été à Orr, au Minnesota, ainsi que l'ensemble des activités pour les jeunes à une certaine époque. Il croyait fermement à ce principe. Il disait toujours aux conseillers d'arrêter les choses avant qu'elles ne commencent, ou au moins de les arrêter quand elles commencent. Si quelqu'un s'en prend à un autre campeur, arrêtez cela. Si quelqu'un utilise un langage incorrect, arrêtez cela dès le début. Mettez-y un terme avant que cela ne prenne de l'ampleur. Tout cela est logique, mais est-ce que cela correspond à la Bible? La Bible nous dit-elle la même chose? Reportons-nous à Proverbe 17. Proverbe 17 et le verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Il y a plusieurs explications à cela, mais si vous lisez les commentaires, le plus courant est que si vous avez un trou dans la digue ou le barrage, il faut s'en occuper dès le début. Si vous ne le faites pas, toute l'eau va s'engouffrer par là et vous vous retrouverez bientôt avec une situation impossible à gérer. Et c'est ainsi qu'il en va avec les querelles. Il faut s'en occuper dès le début. Arrêter la dispute avant qu'elle ne commence. Ainsi, lorsque quelque chose commence à mal tourner, vous vous en occupez rapidement au lieu de laisser la situation dégénérer. C'est un principe biblique. Dans l'Ecclésiaste 8, Ecclésiaste 8 au verset 11, il dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Si vous réglez le problème quand il est petit, vous n'aurez pas à vous en préoccuper plus tard. » Mais si vous ne le traitez pas quand il est petit et que vous le laissez grandir et grandir, vous aurez bientôt un problème majeur. Je pense qu'un bon exemple de cela est que si vous avez un enfant de 4 ans et que vous ne vous occupez pas de ses problèmes d'attitude à ce moment-là de sa vie, que ferez-vous quand il aura 14 ou 16 ans? Si vous n'avez pas le courage de faire ce qui est nécessaire lorsque l'enfant est petit, comment ferez-vous lorsqu'il ne sera plus si petit, lorsqu'il sera aussi grand que vous? Je me souviens d'un homme qui avait un fils dont il avait littéralement peur de son propre fils adolescent. Son fils était grand, fort et incontrôlable, et ce depuis un certain temps. Dans ce cas, il a eu de la chance, il s'est engagé dans l'armée. Son père lui a dit « Ils vont s'occuper de toi », et c'est ce qu'ils ont fait. Il a rappelé son père environ 3 semaines plus tard, il a dit « Papa, ils m'ont cassé ». Les proverbes parlent aussi de ce principe. Reportons-nous à Proverbe 1. Remarquons l'objectif des proverbes. Pourquoi Dieu a-t-il placé les proverbes dans les Écritures? Quel est leur but? Proverbe 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Il est évident que Salomon n'a pas agi tout à fait correctement. Il était le fils de David, et à l'évidence, David a aussi commis des erreurs en l'éduquant, mais Salomon est un homme très sage à bien des égards. La raison d'être des proverbes est la suivante. Verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Remarquez le verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Nous voyons donc ici que la crainte de Dieu, le respect de Dieu, la prise en compte de la parole de Dieu et l'examen de ce qu'elle dit sont le début de la sagesse. C'est le début de l'instruction, c'est le début de la connaissance. Et ceci est donné pour les jeunes, qui n'ont pas toujours une vue d'ensemble et complète de la situation. Lorsqu'on a 20 ans, je ne veux pas m'en prendre à qui que ce soit, et qu'il y a un enfant à ce moment-là, que sait-il vraiment de l'éducation des enfants? Eh bien, la plupart de ce que vous savez, c'est la façon dont vous avez été élevé. Mais, comme me l'a dit un jour un ancien membre, diacre de la congrégation dans la soixantaine, qui était plus âgé que moi à l'époque, mais tout de même plus jeune que je ne le suis aujourd'hui, il me disait « Tout vient à l'envers. Quand on est jeune et qu'on a des enfants, on ne sait pas grand-chose. Lorsque vous les élevez, vous en savez un peu plus. » Puis on devient grand-parent. On gâte ses petits-enfants, mais vous les aimez aussi d'une manière particulière et parfois, on fait plus que les gâter, on les aide. Quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent. On a donc une petite maison pour élever sa famille et on est allés trois les uns sur les autres. Je me souviens, lorsque nous vivions en Alaska, nous vivions dans une maison d'une seule pièce. Ce n'était même pas une maison, c'était une sorte de bâtiment de 6 ou 8 résidences. Je ne pense même pas que l'extérieur avait été peint. Cela me rappelle un peu ce que l'on voit dans les villages inuits là-haut. C'est comme ça que ça se passait. C'était les années 1950, c'était un peu différent. Nous étions censés avoir un logement sur la base, mais il a brûlé avant que nous n'arrivions. Nous avons donc dû vivre au milieu de nulle part. Nous avons tous survécu à 4 dans cette petite maison d'une seule pièce. Seule la salle de bain était séparée. Tout le reste n'était qu'une pièce. Et c'est probablement plus petit que dans mes souvenirs, parce que quand on est petit, tout paraît plus grand que plus tard. Mais c'est ainsi que beaucoup de gens commencent dans la vie. Ils commencent avec un appartement, un petit appartement ou quelque chose comme cela, et vous commencez à élever une famille et vous avez besoin de plus de place. Et finalement, lorsque vos revenus vous permettent d'acheter une maison plus grande, les enfants sont tous partis. Vous n'en avez plus besoin. Comme ce diacre le souligna, tout semble fonctionner à l'envers. Mais Dieu le sait et il a des raisons pour cela. Et cela nous donne l'occasion d'apprendre des choses. Les proverbes sont là pour nous enseigner, surtout quand nous sommes jeunes. Mais lorsque nous sommes jeunes et que nous commençons, nous pensons souvent tout savoir. Or, ce n'est pas le cas. Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes. Au cours du siècle dernier, soit environ 100 ans, de nombreux changements ont eu lieu dans la manière dont nous prenons soin des enfants. Il fut un temps où l'on disait que les enfants devaient être vus et non pas entendus. Dans le monde d'aujourd'hui, les enfants sont au cœur de toutes les préoccupations. Je ne veux pas dire qu'ils ne devraient pas l'être dans une certaine mesure, mais souvent les enfants prennent le contrôle, le centre d'attention. Et cela peut être un problème. La première moitié du 20e siècle fut une période très éprouvante pour les gens. J'étais en train de faire des recherches et d'y réfléchir, et je n'avais même pas réalisé à quel point cette période fut courte. Il s'agit d'une période d'environ 31 ans, de 1914 à 1945. Que s'est-il passé pendant cette période? 2 guerres mondiales qui ont duré 4, 5 ou 6 ans. Une pandémie qui a fait entre 50 et 100 millions de morts dans le monde. Je me souviens encore de l'époque où les statistiques étaient de 25 millions et d'environ 1,5 million aux États-Unis. Après de nombreuses études, on estime aujourd'hui que la pandémie de 1918, la grippe porcine, a fait au moins 50 millions de victimes, voire 100 millions. C'est intéressant parce que la population, et j'aurais dû vérifier, était bien inférieure à celle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la population s'élève à environ 8 milliards d'individus. Quelle était la population à l'époque? Je n'en suis pas certain, mais c'était nettement inférieur à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était aussi beaucoup plus rural, les gens vivaient plus dispersés. Même s'il y avait de grandes villes, les gens étaient un peu plus disséminés. Cela a quand même entraîné la mort d'un grand nombre de personnes. Cette pandémie était beaucoup plus mortelle que le COVID. Et entre les deux guerres mondiales, s'est produite la Grande Dépression. Alors que les années passent et qu'on s'éloigne de cette période, j'imagine que la plupart de nos jeunes ne saisissent pas vraiment l'effet de la Grande Dépression. Bien que les personnes dont les parents ont connu cette époque l'aient vécu différemment en raison de leur perception de l'argent, de l'épargne et divers autres aspects. Mais j'aimerais lire un extrait de Britannica.com. On y lit « La Grande Dépression a commencé aux États-Unis comme une récession ordinaire au cours de l'été 1929. Le ralentissement s'est cependant nettement aggravé à la fin de 1929 et s'est poursuivi jusqu'au début de l'an 1933. Ce ne fut pas la fin de la dépression, c'est juste le moment où la crise a stagné. Elle s'est poursuivie jusqu'en 1939, selon certaines sources. En fait, c'est ce que dit cette source. D'autres sources affirment que les États-Unis ne sont vraiment sortis de la dépression qu'en 1941, au début de la guerre. La période s'étend donc de 1929 à 1939 au moins, soit 11 ans, peut-être 13, entre les deux guerres mondiales et la pandémie. La production et les prix réels ont chuté de façon précipitée. Entre le pic et le creux de la récession, la production industrielle aux États-Unis a chuté de 47%. En d'autres termes, notre production, la production industrielle, a été presque divisée par deux. Le produit intérieur brut réel, le PIB, a chuté de 30%. Il est largement admis que le taux de chômage a dépassé les 20%. J'ai vu des statistiques qui parlent de 25%. Les chiffres varient un peu, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agissait d'un minimum de 20% et que ce chiffre a été peut-être dépassé. La gravité de la Grande Dépression aux États-Unis devient particulièrement évidente lorsqu'on la compare à la récession suivante, la Grande Récession de 2007-2009, au cours de laquelle le PIB réel du pays a diminué de 4,3%. Contre 30%. Elle a duré de 2007 à 2009, alors que la Grande Dépression a duré entre 11 à 13 ans. Et le taux de chômage pendant la Grande Récession a culminé à moins de 10%, soit bien moins de la moitié de ce qu'il était pendant la Grande Dépression, qui a duré si longtemps. Je pense qu'il est bon de mettre ces choses en perspective parce que parfois nous ne réalisons pas vraiment ce qu'était la vie. Ceux qui ont vécu cette époque voulaient une meilleure vie pour leurs enfants. Ils avaient vécu la Grande Dépression. Mes parents et les parents de ma femme sont nés pendant la Première Guerre mondiale et ont vécu la pandémie. Mais ils ne le savaient pas à l'époque. Mais je suis sûr qu'ils en ont entendu parler, tout comme nous entendons parler de choses qui se sont produites dans le passé. Mais ceux qui appartenaient à cette génération ont vu la Grande Dépression. Ils ont vu la Seconde Guerre mondiale. Et ils voulaient pour leurs enfants une vie meilleure que celle qu'ils avaient. C'est ainsi qu'est arrivé le docteur Benjamin Spock, qui a réagi à l'éducation rigide et sans émotion de la première moitié du 20e siècle. J'ai entendu des histoires, même dans ma famille et celle de ma femme, sur le fait que les pères étaient parfois très durs, très stricts, d'une certaine manière. Je sais que, même dans le cas de mon grand-père, ma belle-mère m'a dit un jour qu'elle pensait que mon grand-père était plutôt cruel et dur. Mon père a simplement répondu, « Eh bien, il travaillait dur et attendait de son entourage qu'il travaille dur. Ils étaient obligés de le faire. Ils n'avaient pas tous les programmes sociaux dont nous disposons aujourd'hui. Maintenant, à tort ou à raison, le docteur Spock a été considéré par beaucoup comme la cause d'une génération d'enfants gâtés. Mais j'aimerais remettre les choses en perspective, car, comme je l'ai dit, tout n'est pas bon ou bien, et tout n'est pas mauvais. Le docteur James Dobson, qui est connu pour son approche plutôt stricte de l'éducation des enfants, a écrit ce qui suit. Il est dit que le feu docteur Benjamin Spock, qui a écrit l'éternel best-seller Baby and Child Care, Soins aux bébés et aux enfants, c'est ainsi que les gens ont élevé leurs enfants avec ce livre après la guerre, a été sévèrement critiqué pour son approche de laisser aller en matière d'éducation des enfants. On lui reproche d'affaiblir l'autorité parentale et de produire une génération entière d'enfants irrespectueux et indisciplinés. Pour l'homme de la rue, le docteur Spock est devenu un symbole de permissivité et d'indulgence dans les relations parents-enfants. La perception est la réalité, et de toute évidence, c'est le docteur Spock qui a donné cette perception. Mais le docteur Dobson dit ceci, c'était un coup bas. Il poursuit, « J'ai déjeuné avec lui un jour après que nous avions été invités à une émission de télévision nationale, et j'ai constaté que nos points de vue étaient étonnamment similaires sur la plupart des sujets, mais pas sur la politique. Le docteur Spock était contre la guerre du Vietnam, et il le dit haut et fort. Il s'agissait donc manifestement d'une période plus tardive de sa vie, longtemps après avoir écrit « Baby and Child Care »,« Soins aux bébés et aux enfants », peut-être en réponse aux critiques dont il a fait l'objet, le Dr. Spock a publié un article de clarification intitulé « How not to bring up a bratty child »,« Comment ne pas élever un enfant turbulent ». Il écrivit « La soumission parentale, c'est-à-dire les parents qui cèdent à leurs enfants, n'évite pas les désagréments. Elle les rend inévitables. La défiance d'un enfant, dit-il, rend le parent de plus en plus rancunier jusqu'à ce qu'il finisse par exploser dans une manifestation de colère. Il continue. Le moyen d'amener un enfant à faire ce qui doit être fait ou à cesser de faire ce qui ne doit pas être fait, elle doit être claire et nette à chaque fois. La fermeté des parents rend aussi l'enfant plus heureux. » Cette déclaration est intéressante parce que, bien avant que je lise ce texte hier, bien avant cela, ma femme et moi avons observé que les enfants indisciplinés sont des enfants malheureux. Il suffit de regarder et vous verrez que les enfants indisciplinés, les enfants où il n'y a pas de discipline de la part des parents, sont des enfants malheureux. Enfin, juste avant sa mort, à l'âge de 93 ans, le docteur Spock a été cité comme ayant dit « C'est très bien que les parents respectent leurs enfants, et on insiste beaucoup sur le fait que nous devons respecter nos enfants. » Il existe de nombreux ouvrages sur ce sujet. Nous ne sommes pas nécessairement en désaccord avec cela, mais je pense que nous respecterions normalement nos enfants. Nous aimons nos enfants. Et il a ajouté, mais ils oublient souvent de demander le respect en retour. C'est ce qu'a dit le docteur Spock plus tard dans sa vie. Il est bon que les parents respectent leurs enfants, mais ils oublient souvent de demander le respect en retour. Je dirais plus que demander, je dirais exiger le respect. Faites les choses qui suscitent le respect. Le docteur Spock avait tout à fait raison, dit le docteur Dobson. Si vous ne prenez pas position tôt avec votre enfant, en d'autres termes, lorsque le problème est mineur, petit, elle est contrainte par sa nature de vous pousser encore plus loin. J'aime aussi cela parce qu'il dit qu'elle est contrainte. Autrefois, c'était le générique « il » qui comprenait tout, mais aujourd'hui, pour être politiquement correct, le docteur Dobson utilise le féminin. Désolé, mesdames, je n'essaie pas d'être sexiste, mais c'est ce que je remarque de plus en plus dans les publications du monde, cette tendance à prendre le côté féminin des choses. Alors que dans la parole de Dieu, on prend le côté masculin, ce qui inclut les deux. En fait, l'apôtre Paul parle de fils et de filles. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible qui concernent les femmes de manière positive et leur exemple. Mais je trouve cela intéressant. Il ajoute, Si vous ne prenez pas position très tôt avec votre enfant, elle est obligée par sa nature de vous pousser plus loin. Cela semble négatif, mais il aurait peut-être dû dire « lui » parce qu'il se rebute davantage par sa nature de vous pousser plus loin. Des batailles terribles sont inévitables, en particulier à l'adolescence ou au début de la puberté. Ces batailles sont inévitables pour un enfant élevé de manière permissive. Le parent hésitant et culpabilisé, qui cherche avant tout à éviter la confrontation, se retrouve souvent à crier ou à menacer tout au long de la journée et finit par frapper l'enfant. En d'autres termes, il s'agit de battre l'enfant. En fait, la violence physique peut être le résultat final. Elle peut aller jusqu'à la maltraitance totale. Cependant, si le père et la mère ont le courage et la conviction d'exercer un leadership ferme dès les premiers jours de l'enfance, dans un contexte d'amour sincère, les deux générations jouiront d'une atmosphère d'harmonie et de respect. C'est précisément ce que j'essaie d'enseigner depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, en plus de Benjamin Spock et de James Dobson, beaucoup d'autres personnes se sont lancées dans la distribution de conseils sur l'éducation des enfants. Vous avez des livres sur la façon de négocier avec votre enfant. Je l'ai constaté de mes propres yeux avec quelqu'un qui, je veux être très générique ici, n'est plus avec nous maintenant, mais sous les ordres duquel j'ai travaillé dans un camp d'été. Il s'agissait toujours de négocier avec les adolescents. Certains livres nous disent de ne jamais dire non à votre enfant. Laissez-le se trouver lui-même. C'est un peu extrême. Je ne sais pas combien de parents l'ont essayé, mais cela ne dure pas très longtemps. Ou encore des livres sur l'apprentissage du raisonnement avec l'enfant. Voici comment raisonner avec l'enfant. Les livres du Dr. Ross Campbell sur comment aimer vraiment votre enfant, comment aimer vraiment votre adolescent. Il y a aussi Love and Logic, qui met l'accent sur l'amour de l'enfant et l'utilisation de la logique. Je ne sais pas si beaucoup d'enfants de 4 ans comprennent la logique, mais ce n'est pas qu'il n'y ait pas quelque chose de positif à apprendre de ces sources. Il y a toujours quelque chose de positif dans ces sources. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si nous utilisons ces ouvrages plutôt que la Bible elle-même, nous risquons de nous écarter complètement du but. Le résultat final de certains de ces livres et de ces colonnes de conseils est que c'est inutile. Il suffit de parler et de ne jamais donner une fessée à un enfant. Bien sûr, ils ne disent jamais fessée, ils utilisent des mots comme battre ou autre avec ce genre de langage. Et on nous dit que si vous donnez une fessée à un enfant, il apprendra la violence, parce que vous avez utilisé la violence sur lui. Mais je n'ai jamais pensé qu'une bonne fessée est un acte de violence. Chose amusante, j'ai grandi en recevant quelques fessées, pas beaucoup, mais je suis sûr que c'est plus que ce dont je me souviens. Il y a un certain âge où la fessée n'est probablement pas la chose à faire. Mais combien de soi-disant experts se tournent vers notre Créateur pour lui demander conseil? Je suis tombé sur une citation et je pense que c'est de Benjamin Spock, mais je n'en suis pas sûr, c'était dans ce contexte. Mais ce n'est pas exactement ce qui a été dit, donc il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre. Mais voici la citation. « Nous avons élevé une génération d'enfants gâtés. Les parents ne sont pas assez fermes avec leurs enfants de peur de perdre leur amour et d'encourir leur ressentiment. C'est une privation cruelle que nous, les professionnels, avons imposée aux mères et aux pères. Bien sûr, nous l'avons fait avec les meilleures intentions du monde. Nous n'avons réalisé que trop tard à quel point notre attitude de « je sais tout » sapait l'assurance des parents. » Cette citation semble vraiment correspondre au Dr. Spock, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. C'est tout de même une citation intéressante. Que nous révèle la Bible sur l'éducation des enfants? C'est pour cette raison que j'ai consacré beaucoup de temps au contexte, parce que les gens choisissent ce qu'ils veulent croire au sujet de la Bible. Voyons ce que dit Jean 13. Jean 13, versets 13 à 17. Verset 13. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Notre Seigneur et Sauveur nous a donné l'exemple de servir. » Et les parents l'apprennent très vite. Ces petits ont besoin de beaucoup d'attention. J'ai toujours dit que les chiens, les chats et les enfants sont mignons quand ils sont petits. Sinon, nous les tuerions. Vous savez, lorsqu'ils grandissent et qu'ils ne sont plus aussi mignons, nous avons appris à les aimer et nous les aimons pour ce qu'ils sont, leurs diverses bizarreries. Mais vous savez, lorsqu'une créature est petite, cela peut représenter beaucoup de travail. Pourtant, le Christ nous donne l'exemple du service, du don de soi. Et il nous dit, « J'ai donné cet exemple pour vous. » C'est la première chose que nous devons faire en tant que parents. Et cela semble simple, mais ça doit être un exemple du mode de vie de Dieu. Soyez un exemple. Le parent qui dit, « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais », nous avons tous entendu cela, ne sera pas très performant. Un expert, ou devrais-je dire une personne considérée comme un expert, s'est adressé à certains d'entre nous, ministres, lorsque j'étais dans le Michigan il y a plusieurs années. Il s'occupait de familles ayant des problèmes, et son sujet était « Pourquoi les enfants chrétiens tournent mal ?» Le tout premier point qu'il a soulevé, je pense qu'il avait 7 points, c'était l'hypocrisie. L'hypocrisie vous perdra plus vite que n'importe quoi d'autre, parce que les jeunes s'en rendent compte, ils la reconnaissent. Je me souviens, et je ne regardais pas beaucoup ces émissions, les émissions de Tim Allen, qu'est-ce que c'était, je ne m'en souviens plus du nom, c'était Toolman Taylor ou quelque chose comme cela. Quoi qu'il en soit, je suis tombé par hasard sur l'une d'entre elles, car je ne la regarde pas régulièrement. Ils s'étaient réunis avec un vieil ami et ils parlaient du temps merveilleux qu'ils avaient passé quand ils étaient des enfants et de ce qu'ils avaient fait, des choses qui n'allaient pas, etc. Et un peu plus tard, il vit son fils dehors, tout seul. Il est allé lui dire, « Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas ?» Son fils lui répond, « Tu me dis que je ne devrais pas faire ceci, cela ou autre chose, mais tu l'as fait quand tu avais mon âge. Et tu t'amuses à en parler. » En d'autres termes, le fils a vu l'hypocrisie de la chose. Il faut faire attention à l'hypocrisie. Comme je l'ai souvent dit, nous faisons tous, à un moment ou à un autre, quelque chose d'hypocrite. Mais les enfants savent faire la différence entre une simple erreur et un mode de vie hypocrite. Lorsque vous prêchez une chose, mais que vous agissez constamment autrement, il y a un décalage. Le Christ a donné l'exemple, et si nous voulons suivre son exemple, nous devons être nous-mêmes un exemple. Pas seulement un exemple de service, mais un exemple en tout temps. Dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Pierre dit, verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. paisser le troupeau de Dieu, être le berger d'un troupeau de moutons est quelque chose d'important. David était un berger. Moïse le fut pendant une quarantaine d'années. Dieu veut que nous apprenions quelque chose dans le fait de s'occuper de brebis sans défense. La compassion et l'amour pour ses brebis. David aimait suffisamment les brebis pour les défendre. Il aurait pu dire, « Oh, ce loup, je ne veux pas me batailler avec lui, ou ce lion ou cet ours, je vais les laisser tranquilles. » Mais non, il a pris soin d'elles, des brebis. Combien de parents sacrifieraient leur vie pour sauver leurs enfants? Il ne fait aucun doute dans mon esprit que probablement tout le monde ici, et beaucoup de gens qui ne sont pas ici, le feraient. Bien que ce soit intéressant, l'une des choses qui soit ressortie de nos récentes réunions du Conseil des Anciens est le fait qu'il y a beaucoup de parents dans le monde d'aujourd'hui qui sont tellement préoccupés par leur carrière, leurs vacances, ou les choses qu'ils veulent faire, qu'ils ne se soucient pas vraiment de leurs enfants. Ils ont des enfants et les confient à quelqu'un d'autre pour qu'ils les élèvent, en espérant que, lorsque les enfants seront plus grands, ils pourront être copains. Un peu comme dans la chanson « Cats in the Cradle », les chats dans le berceau. Poursuivons au verset 2 et 3. « Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Pierre dit donc aux anciens, aux ministres, soyez des exemples pour le troupeau. C'est également le tout premier principe de l'éducation des enfants, être un exemple. Votre enfant de 3 ans ne comprend pas vraiment toutes ces choses, mais je vous garantis que si vous ne commencez pas à mettre ces principes en pratique lorsqu'ils sont jeunes, alors que vous êtes jeunes et qu'ils sont jeunes, plus tard, à leur adolescence, ils verront ces actes hypocrites, et c'est très important. Le point suivant est très simple. Il s'agit de l'enseignement et de la formation. Dans Proverbe 22, et verset 6, encore une fois, cela peut sembler assez simple. Proverbe 22, verset 6, il est dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » J'ai entendu certaines personnes essayer de rationaliser la situation en disant « Il faut éduquer l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il reviendra. » Ce n'est pas ce qui est dit. J'ai entendu des gens dire cela, mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. En d'autres termes, nous devons passer du temps avec nos enfants. Lorsqu'ils naissent, oui, nous passons beaucoup de temps avec eux, mais lorsqu'ils atteignent l'âge, où ils sont un peu plus difficiles à maîtriser, pour ainsi dire, nous nous laissons emporter par notre vie et nous les oublions. Et comme j'en parle ici, permettez-moi d'être très ouvert, puisque n'ayant pas d'enfant moi-même, je dois parler en mon propre nom, parce que je ne sais pas quel genre de parent j'aurais été. Je connais les principes avec lesquels je travaille en ce qui concerne les jeunes, mais ce n'est pas la même chose que d'être un parent. Vous pouvez savoir certaines choses, mais cela ne veut pas dire que vous allez nécessairement les appliquer parce que les émotions entrent en jeu. La frustration, le travail, le fait d'être occupé. Et vous vous occupez d'eux tout le temps. C'est différent. Je ne suis donc pas en train de dire que j'ai toutes les réponses. Je pense qu'il y a des principes bibliques et je veux les mettre en évidence. Mais cela ne veut pas dire que j'aurais été un bon père, pas du tout. J'espère que je l'aurais été, mais je n'en sais rien. Tant que vous n'y êtes pas, je ne pense pas que vous puissiez le savoir. Dans Deutéronome 6, ce sont des Écritures que vous connaissez bien, Deutéronome 6 et le verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Encore une fois, s'ils sont dans notre cœur, nous n'allons pas être hypocrites dans notre façon d'agir. Tu les inculqueras à tes enfants. En anglais, tu les enseigneras diligemment à tes enfants. Pas nonchalamment, mais diligemment. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En d'autres termes, Il montre que nous devons passer du temps avec nos enfants. Je pense qu'une chose que nous pourrions tous faire est de faire de nos repas une zone interdite aux médias électroniques. Nous baissons ou nous éteignons la télévision. Nous prenons nos téléphones et nous les éteignons ou les mettons dans un endroit où nous ne serons pas interrompus. Nous prenons le temps d'apprendre à connaître nos familles. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous devons le faire. Nous ne devrions pas permettre les interruptions. Il se peut qu'un appel téléphonique arrive, un véritable appel téléphonique, et que vous deviez le vérifier parce qu'il pourrait s'agir de quelque chose d'important. Mais toutes les choses que nous recevons par courriel, par texto ou autre, si vous attendez une demi-heure, ce ne sera pas la fin du monde. Mais cela apprend aussi aux jeunes qu'il y a un temps et un lieu pour ces appareils électroniques, et que l'heure des repas n'en fait pas partie. Dans le psaume 78, les versets 2 à 4. Verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Vous pouvez lire ce passage jusqu'au verset 8, mais l'idée est que nous transmettons à la génération suivante les œuvres de Dieu. Pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, mais aussi les histoires. Au lieu de passer votre temps à vous remémorer vos soirées de jeunesse où vous êtes enivré à l'âge de 15 ans, il y a peut-être un moment où vous aurez une discussion avec votre fils ou votre fille à ce sujet, s'il vous plaît. Ne vous méprenez pas. Il y aura peut-être un moment où vous devez en discuter. Mais l'accent devrait être mis sur les choses qui se sont produites. Les miracles que vous avez vus dans votre vie. Les guérisons que vous avez constatées chez vous et chez d'autres personnes que vous avez connues. Et la manière dont Dieu est intervenu pour vous dans telle ou telle situation. Il y a un temps pour cela, et il faut s'assurer que l'enfant est en âge de les comprendre. Parfois, il faut attendre un bon moment, mais il s'agit de parler des œuvres de Dieu. Et ils ont besoin de savoir ces choses. Lorsque vous parcourez les Écritures, il est intéressant, je devrais faire un sermon sur ce sujet à un moment donné, ou peut-être que je le ferai à l'avenir, mais n'est-il pas intéressant de voir comment, lorsque vous parcourez les Écritures, elles reviennent toujours à l'époque de la sortie d'Égypte. Les Écritures sont écrites sur des centaines d'années, et c'est un thème qui revient toujours. Le fait que la sortie d'Égypte soit toujours présente dans les récits est la preuve qu'elle a réellement eu lieu. Parce qu'il n'y a jamais de génération où l'on n'en entend pas parler. Elle est toujours là. Lorsque nous parlons de ce qui s'est passé dans l'Église universelle, nous pouvons expliquer à nos enfants, s'ils sont en âge de comprendre, ce qui s'est réellement passé. Ainsi, il n'y a pas de jeunes qui se promèneront en disant « L'Église est en train de suivre le chemin des Takacs ». Vous savez, c'est ridicule. Mais les gens ne connaissent pas très bien l'histoire. Reportons-nous à Éphésiens 6. Éphésiens 6. Et le verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a deux choses ici. La première est que nous devons les élever dans la formation et l'exhortation du Seigneur. Mais aussi, dans ce processus, nous ne devons pas les provoquer à la colère. Ne soyez pas si durs avec eux et n'attendez pas la perfection au point de les décourager. Ils s'adressent aux pères, car ce sont eux, en majorité, qui ont tendance à se comporter ainsi, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Les mères le font aussi parfois. Mais en tant qu'hommes, nous voulons parfois trop de perfection de la part de nos enfants. Et cela ne devrait pas être le cas. Le livre des Proverbes a beaucoup à dire. Mais un autre principe est l'amour. Reportons-nous à 1 Jean chapitre 4. Il est dit que Dieu est amour, deux fois, au verset 8 et au verset 16. Mais j'aimerais lire le verset 19 qui dit, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous devons d'abord aimer nos enfants avant qu'ils ne nous aiment. Cela peut sembler simple, mais l'amour implique une action. Il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais d'action. Et il peut être accompagné de sentiments, mais l'amour est une action. Quel type d'action? Nous vivons comme un exemple. Enseigner, former, prendre le temps, passer du temps avec nos enfants, jouer avec eux. Même un petit jeu enfantin quand ils ont 7 ou 8 ans. Prendre 15 minutes avant de faire autre chose. Quand on rentre à la maison pour passer du temps avec eux. Ce n'est pas toujours facile. Tout ce qui précède est absolument essentiel. Mais certains jeunes parents pensent qu'il suffit d'aimer et de raisonner avec leurs enfants. Nous ne devons pas négliger les points que je viens de citer. Passer du temps avec eux, les enseigner, les former, être un exemple, et avoir un amour réel et authentique dans ce processus. Mais trop souvent, les parents négligent une discipline aimante. Il fut un temps dans l'Église de Dieu où la discipline était considérée comme la panacée. Et franchement, il y a eu ce que j'appellerais des abus dans l'Église, où les gens pensaient que donner la fessée à leurs enfants était la réponse à tout. Ce n'est certainement pas le cas. Mais nous pouvons aller jusqu'à l'autre extrême où nous pensons en savoir plus que Dieu. Reportons-nous à Hébreux 12. Hébreux 12, versets 5 et 6. Hébreux 12, versets 5 et 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il châtie. Il ne sort pas une palette à fessée, mais il laisse venir sur nous des problèmes qui sont douloureux. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si Dieu, notre Père céleste, sait que vous et moi avons parfois besoin d'être châtiés, et qu'il nous aime suffisamment pour le permettre, même si je suis sûr qu'il n'aime pas plus que quiconque de nous voir souffrir, il est prêt à le faire. Et s'il le fait, pourquoi ne le ferions-nous pas? Si vous remarquez bien, il s'agit d'une citation. Elle est tirée du Proverbe 3, versets 11 et 12. L'auteur des Hébreux, que nous croyons être Paul, s'est donc référé au Proverbe pour expliquer cette situation. Et nous devrions également nous tourner vers les Proverbes, car ils nous en disent beaucoup sur ce sujet. Voyons ce que les Proverbes nous révèlent sur la nature d'un enfant. Le Proverbe 22 et le verset 15. Proverbe 22, verset 15, nous apprend quelque chose sur la nature de l'enfant. Verset 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Il n'est probablement pas nécessaire d'être parent pour s'en rendre compte. Mais la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et le proverbe ajoute, la verge de la correction l'éloignera de lui. Lorsque Johnny agira d'une manière stupide et insensée, sans vous écouter, cela le ramènera sur le droit chemin. Une bonne correction le remettra d'aplomb. J'avais l'habitude de penser à cela en termes de tige. Je pensais plutôt à un bâton de marche. Mais ce n'est pas ce dont il parle ici. J'avais des amis qui, je pense, comprenaient mieux cela. Lorsqu'ils faisaient des bêtises, leurs parents les envoyaient dans le jardin chercher un certain type d'arbuste pour obtenir, vous savez, un fouet de 18 pouces ou autre, qu'ils pouvaient utiliser pour leur donner la fessée. La fessée était douloureuse, mais ne les blessait pas. Je n'ai jamais eu cela. Je pense que mes parents utilisaient quelque chose comme une raquette, pas une raquette de ping-pong, mais une de ces raquettes avec une petite balle attachée avec un élastique. Vous savez de quoi je parle? Je ne me souviens d'une fois où je l'ai caché. Et ils ne l'ont pas trouvé pendant des mois. Elle était dans un tapis enroulé, et je suppose lorsqu'ils ont déroulé le tapis, ils l'ont trouvé. Quoi qu'il en soit, cela ne m'empêchait pas d'être puni avec la main ou tout autre moyen disponible. Ils ne m'ont jamais maltraité, mais ils m'ont certainement rappelé l'importance de me tenir droit à certains moments. En général, le simple regard de mon père suffisait si je faisais les siennes. La raison en est qu'il avait attiré mon attention plus tôt dans la vie et que je savais ce qui m'attendait si je ne me redressais pas. Ce regard faisait beaucoup. Dans Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. Il est dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Il donne la sagesse. Et remarquez la dernière partie du verset. Ben, l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Vous savez, les mères sont différentes des pères, évidemment. Mais sérieusement, un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Il y a quelque chose de spécial dans le lien entre une mère et son enfant. Un enfant qui a été à l'intérieur de son corps, nourri par son corps. Il y a quelque chose donc d'unique là. Mais qui, dans la famille, crie généralement sans que rien ne change? Attends que ton père rentre à la maison. Mais lorsque le père rentre à la maison, l'enfant sait que ce n'est pas forcément bon pour lui. Ce n'est pas vrai dans toutes les familles, mais historiquement, c'est le cas. Parce que papa va le dire une fois, puis l'action suivra. C'est ce qu'on peut lire ici, verset 15. Un enfant livré à lui-même, un enfant qui n'a pas de directive ou qui est laissé libre de faire ce qu'il veut, fera honte à sa mère. Elle ressentira non seulement de la honte, mais aussi de la tristesse. Elle versera des larmes amères pour cet enfant. Ses sentiments seront partagés aussi par le père. Alors, quel est le conseil pour traiter le problème? Regardons Proverbe 19, verset 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Il y a de l'espoir. Comme me l'a dit mon père, si tu t'occupes des petites choses, tu n'auras pas à t'occuper des grandes. Il s'agit en fait de dire, châtie ton fils pendant qu'il y a de l'espoir, pendant qu'il est encore temps d'influencer la direction qu'il prendra. Lorsque le problème est mineur, un petit enfant n'a pas besoin de grand-chose pour attirer son attention. Un adolescent? C'est une toute autre histoire. Voulez-vous vraiment avoir affaire à cela? Et il continue au verset 18. « Mais ne désire point le faire mourir, car c'est ce qui peut arriver si nous ne nous attaquons pas au problème quand ils sont petits. » Je me souviens d'un jeune garçon. Je l'appellerai simplement Johnny. Il était incontrôlable. Il avait 4 ans et il venait aux assemblées avec sa mère. C'était une mère célibataire et nous avions des tables en forme de U et tout le monde s'asseyait à l'extérieur. C'était une petite assemblée. Johnny passait sous les tables et sa mère faisait le tour pour essayer de le rattraper. Puis il repartait en rampant dans l'autre sens, faisait cela 3 ou 4 fois, pendant que j'essayais de faire un sermon. Et l'instant d'après, Johnny a enroulé ses bras autour de ma jambe, comme si j'allais le sauver. J'ai simplement dit, « Johnny, retourne là-bas. » Et il l'a fait. Puisque nous avons plusieurs nouvelles personnes dans la salle, je vais réutiliser un exemple que j'ai déjà donné auparavant, car il est très bon. Un jour, ma femme et moi avons rendu visite à cette mère célibataire et Johnny faisait son numéro habituel. Sa mère a dit quelque chose de très honnête et sincère. « Je sais que je ne devrais pas me sentir comme ça, mais je déteste mon fils. » La raison? Il était incontrôlable. Je lui ai dit, « Vous devez attirer son attention. Lorsqu'il fait des siennes, que vous lui avez dit de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, dites-le lui à nouveau, mais cette fois-ci, soyez ferme. S'il ne le fait pas, allez le voir et donnez-lui une fessée. » Et elle l'a fait. Et l'instant d'après, après avoir un peu réfléchi, Johnny s'est approché d'elle et a voulu s'asseoir sur ses genoux. Vous savez, en l'espace de, je ne me souviens pas exactement, quelques semaines ou quelques mois, ce ne fut pas très long. Johnny est devenu l'un des enfants les plus agréables que l'on puisse imaginer. C'était un beau jeune homme parce que sa mère a suivi les conseils, les a mis en pratique, les a compris et a fait ce qu'elle devait faire. C'était l'un des exemples les plus remarquables que j'ai vus de la transformation d'un enfant. Il avait environ 4 ans, je ne me souviens pas de l'âge exact. Il y a cependant un danger, et c'est que parfois les gens pensent que la fessée est tout, et qu'ils en font trop. Et vous savez, j'ai vu, je suis sûr que vous avez vu cela aussi, des enfants qui semblent parfaits tout le temps. Ils ne sont jamais autorisés à prendre des décisions par eux-mêmes, ni à apprendre à leurs dépens les conséquences de leurs actes. Parfois, les gens utilisent la fessée comme le seul outil. Et puis, à un certain âge, quand on ne peut plus donner la fessée, ils se rebellent et prennent une direction complètement différente. Ainsi, regarder un enfant de 7, 8 ou 9 ans n'indique pas nécessairement ce qu'il sera plus tard. C'est pourquoi l'exemple, l'amour sincère, le temps passé avec lui et l'enseignement sont absolument nécessaires. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, il existe d'autres formes de discipline. Je ne suis pas un adepte, mais il y a la punition dans le coin. Ensuite, il y a d'être privé de sortie. Je ne me souviens pas d'avoir été puni comme cela, mais j'avais beaucoup d'amis qui l'étaient. Et puis, il y a les conséquences naturelles. J'avais 5 ou 6 ans et je m'en souviens encore. De toutes les choses de la vie dont je me souviens, celle-ci est la plus marquante. Je ne sais plus pourquoi, mais j'étais en colère parce que mon petit coin de jardin ne poussait pas aussi vite que celui de ma sœur, ou quelque chose comme ça. J'ai donc piqué une crise et j'ai piétiné toutes mes plantes. C'était brillant, n'est-ce pas? Mes parents auraient pu me donner la fessée pour avoir fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont simplement laissé les conséquences naturelles de mes actes se dérouler. Je n'ai pas eu de jardin pour le reste de l'été, ce qui, en Alaska, n'est pas très long. Mais j'ai tué mon jardin, et les conséquences ont parlé haut et fort. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Cette expérience a dû modifier ma façon de penser au fil du temps. Je ne connais pas toutes les raisons, mais cette expérience a eu un impact durable sur moi. La discipline ne doit pas être considérée comme la réponse à tout. Comme je l'ai dit, j'ai vu des enfants parfaits lorsqu'ils étaient jeunes, mais il arrive un jour où ils se rebellent. Les enfants doivent disposer d'une latitude suffisante dans la prise de décision pour qu'ils apprennent de leurs décisions. Par exemple, si votre fille veut porter sa robe préférée pour une occasion, vous pouvez lui dire « D'accord, mais si tu la portes maintenant, tu ne pourras pas la porter plus tard dans la semaine parce que je ne vais pas refaire la lessive. » Vous la laissez prendre la décision et vous vous y tenez. Elle apprend que papa et maman font ce qu'ils disent. Si je prends cette décision, il y aura des conséquences à cette décision. Sans l'exemple, l'amour, l'instruction, le temps passé avec eux, le pardon, la compassion et la miséricorde. La punition physique ne fonctionnera pas à long terme. Mais nous avons une génération de jeunes gens qui pensent que tout ce dont j'ai besoin, c'est l'amour et des paroles. Et ils ne se rendent pas compte que Dieu a beaucoup à dire sur l'éducation des enfants. Il y a tant d'autres choses que je n'ai pas abordées aujourd'hui. Mais réjouissons-nous des enfants dont Dieu nous a gratifiés. Encore une fois, la brochure des principes éternels pour l'éducation des enfants de Jeffrey Fall est très importante. J'espère que vous prendrez le temps de la lire. Permettez-moi de conclure avec le psaume 127. Psaume 127. Je vais le lire au verset 1 à 5. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, à moins que Dieu ne soit impliqué dans notre famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Puis il ajoute au verset 3, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. J'ajoute qu'ils sont bien entraînés. Et il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Alors, vous tous qui êtes parents, nous vous aimons, nous aimons vos enfants, et nous savons que vous aimez vos enfants. Utilisez la parole de Dieu comme le fondement sur lequel construire.